Popopiennes, popopiens et tous les autres aussi, bonjour. Aujourd'hui, c'est vendredi et vendredi, c'est podcasty, autrement dit le jour où le carrosse popopop se transforme en citrouille pour faire une bonne soupe à base de podcast et devient donc popopodcast. Oui, parce que l'univers du podcast, pour rester dans la métaphore potagière, c'est un peu comme un minestrone, il y en a pour tous les goûts. Mais heureusement, Popopodcast est là pour vous aider à vous y retrouver comme une maman chat allaite ses petits et pour lui éviter des laits lyophilisés de grande distribution. Le must du podcast, la crème, c'est ici qu'on en parle, le vendredi donc. Et aujourd'hui, nous allons rester dans la tonalité des i avec Julien Cernobori, plus connu sous le nom de Cerno comme les noix, sauf que lui ne vient pas casser les nôtres avec ses contre-enquêtes policières qui captivent un public de plus en plus nombreux, si l'on en croit à la préfecture, colossal selon les organisateurs. Ouvrez grandes vos oreilles, amis auditeurs, et apprêtez-vous à frissonner cette saison à la recherche d'un pitoyable truc. En série Popopodcast, épisode 12, c'est parti.
France Inter, Popopop, Antoine Decaune.
Et bonjour Julien Cernobori.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue dans Popopodcast.
Merci.
Avant d'aller plus loin, est-ce que vous arrivez à prononcer le nom de cette émission?
Difficilement. Popopodcast.
Un peu plus vite.
Popopodcast.
Voilà, très bien, nous y sommes. C'est bien, nous pouvons continuer. Bienvenue sur France Inter, une radio que vous connaissez bien pour avoir travaillé au sein du groupe Radio France en présentant Village People, une émission qui ne s'intéresse pas au groupe, célèbre groupe avec des moustaches, mais aux gens vivants dans les campagnes. Et Baladeur, c'était le nom de la chronique dans laquelle vous alliez à la rencontre des gens pour leur faire écouter de la musique, c'est bien ça?
Oui, oui, j'ai travaillé 15 ans en vérité à France Inter.
Ah oui, vous êtes un vétéran.
Je suis passé par tous les postes, j'ai commencé comme monteur, assistant de réalisation,
vous reporter. Vous avez fini directeur?
Malheureusement non, mais
parce
producteur.
Il y a beaucoup de directeurs dans cette maison.
C'est vrai, oui, un peu trop.
Vous allez être resté à producteur?
Producteur, oui.
Et aujourd'hui, c'est nous qui allons vous faire écouter de la musique. Ça vous fait quoi d'être baladé à votre tour?
Eh bien, écoutez, je ne sais pas si je suis capable mais d'écouter, mais oui, de commenter, on va voir.
Non, mais c'est étrange de se retrouver dans une position d'invité. Hein.
C'est, oui, c'est
inhabituel,
ça.
Même quand on fait de la radio.
Oui, c'est l'arroseur arrosé, oui. Mmh.
Vous aimez bien être arrosé? Ensemble, Julien Cernobori, nous allons parler de votre podcast Cerno l'anti-enquête. Le point de départ de Cerno l'anti-enquête, c'est d'avoir découvert qu'un tueur en série avait vécu dans votre immeuble, celui où vous résidiez. Alors j'ai des doutes concernant mon voisin d'immeuble qui écoute du Vianney à fond 23 heures par jour. Est-ce que ça pourrait être un signe, ça, par exemple?
Oui, c'est peut être inquiétant, effectivement.
Cerno, l'anti-enquête, on va en parler dans deux minutes avec Charline Roux, juste après Wake Me Up, c'est le dernier morceau du groupe Falls.
You
Wake Me Up dans Pop Podcast, et j'ai l'impression que c'est fait. C'est un morceau envoyé sur la planète pop par Falls, et c'est sur ce son que Charline Roux vient de faire son entrée avec son imperméable à la Columba.
Columba, c'est très bien. Bonjour.
Julien Cernobori, dois-je vous présenter Charline Roux ?
Oui, c'est la première fois qu'on se voit en vrai.
Ah bah oui, donc je vous présente Charline Roux. Charline, qui vit dans votre immeuble, vous ?
Bah moi déjà.
D'accord, il y a de quoi faire un podcast avec ça ?
Sûrement pas, non. Alors Julien, juste un mot du titre de votre podcast, Cerno, l'anti-enquête. Qu'est-ce qu'une anti-enquête ?
Alors c'est j'ai appelé ça une anti-enquête parce que je travaille sur un fait, sur une énorme affaire criminelle en fait qui a eu lieu il y a 35 ans, mais on a découvert les coupables, on sait tout a priori de cette affaire, il n'y a plus rien à découvrir et moi je veux vraiment prendre mon temps, explorer les à côté, et j'ai tiré un fil et je veux le dérouler jusqu'à ma mort en gros. Donc voilà, c'est ça une anti-enquête, c'est-à-dire que je suis aussi un piètre enquêteur, je suis vraiment un enquêteur du dimanche, mais je me laisse un peu porter avec mon micro et je visite les lieux de crime. Je rencontre des gens comme ça, je fais des portraits et, qui a priori n'ont pas forcément à voir avec l'enquête proprement dite.
C'est un bon début quand on dit je suis un enquêteur du dimanche, ça veut dire qu'au contraire on est très opiniâtre, très patient, très...
Alors patient c'est sûr, ouais. Mais après j'ai aucune technique d'enquêteur et ça je commence à apprendre.
Et pour en finir avec le titre, y glisser une partie de votre nom, soit Cerno, c'est pour établir d'entrée de jeu un point de vue ?
Oui, c'est ça, absolument. C'est-à-dire que Cerno, c'est un peu mon surnom, on m'appelle Cerno, et on disait faire du Cerno. Et faire du Cerno, c'est faire des portraits de gens anonymes, que je rencontre au hasard. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment ma façon de faire, mon mode opératoire.
Et comment tu es en série ?
Pardon. Et du coup, voilà, je voulais appeler mon podcast comme ça, c'était plus... comment dire, j'ai pas trouvé mieux, en fait.
Et comme il est question d'affaires criminelles, pour moi, c'est rendez-vous, vous êtes Cerno.
Ah oui. Si vous voulez des nouvelles idées de titres.
Oui, bah oui.
Bah oui, non, mais je sais que vous êtes très fort pour
plaisir,
ça.
Mais oui. Bon, intéressons-nous à votre immeuble, Julien Cernobori, car dans celui-ci, vous avez découvert qu'un tueur en série avait vécu. Vous avez donc décidé d'en faire un podcast qui démarrait de cette manière.
3, 2, 1. Je suis chez moi, la nuit est tombée, j'allume la lumière. C'est parti, c'est maintenant précisément que commence ce qui va devenir, j'imagine, une longue aventure. Alors je vous explique. J'habite Paris, près de la gare du Nord, et quand je me suis installé ici il y a quelques années, les anciens occupants de mon appartement m'ont raconté qu'un serial killer avait vécu dans cet immeuble autrefois. Ils avaient complètement oublié son nom. De mon côté, j'ai essayé de faire quelques recherches sur Internet, mais sans succès. Les années ont passé, et puis, à la dernière réunion de CoPro, j'ai évoqué cette histoire de serial killer devant mes voisins. À ce moment-là, une de mes voisines m'a dit qu'elle connaissait le tueur.
Ça démarre bien. Hein ? Bah oui, ça fout les jetons. Alors, Cerno, l'anti-enquête, c'est signé de notre invité Julien Cernobori. Et aujourd'hui, vous en êtes à la 4e saison quand même.
Oui, j'ai fait 80 épisodes.
Ah oui.
Ouais, je suis en train de monter le 81e.
Et Julien, alors si vous aviez habité dans la même rue, mais au numéro suivant, cette idée ne vous serait pas forcément venue ?
Non, alors c'est vrai que ça faisait longtemps que je voulais travailler sur une affaire criminelle, mais à ma façon, je voulais pas faire entrer l'accusé. Ouais. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai emménagé dans cet appartement et que j'ai appris qu'un tueur en série avait vécu là, je me suis dit, tiens, c'est un peu une aubaine pour moi, parce que ça m'a donné, en fait, ça m'a mis le pied à l'étrier. Et voilà, mais c'est vrai que... Je sais pas si je me serais dirigé naturellement vers une affaire criminelle, voilà. Là, je pars d'un truc personnel, en fait.
Ouais, mais
là où le commun des mortels aurait appelé les déménageurs bretons tout de suite, hein, pour dire merci, ailleurs.
Alors après, il a pas tué dans l'immeuble. Il a seulement habité.
Ouais, ça va, alors.
Donc ça va.
Il était tapis dans l'ombre. Ce tueur en série, allez, je balance, hein. La prescription, c'est Jean-Thierry Mathurin, amant et complice du tueur en série Thierry Paulin, le tueur de vieilles dames dans les années 84 à 87. Triste rappel des faits.
11 dames âgées assassinées, Thierry Paulin, c'est peut-être le plus grand criminel de toute l'histoire judiciaire française. Il filait ses victimes jusque chez elles, il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies, et puis il les tuait en les étranglant. Thierry Paulin est transféré au quai des Orfèvres. L'analyse de ses empreintes ne laisse aucun doute. C'est bien le meurtrier du 18e. Depuis 3 semaines, Thierry Paulin vivait ici, en plein centre de Paris. Un client gentil, disent les hôteliers.
Une histoire vieille de 35 ans, mais ce qui vous intéresse, vous, Julien Cernobori, c'est de connaître les souvenirs que cette histoire a laissés et vous donner l'impression de plus vous intéresser aux victimes qu'aux tueurs, ce qui est quasiment l'inverse de ce qui se fait généralement dans les émissions dites de faits divers.
Oui, alors je me suis un peu intéressé quand même aux tueurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté après avoir écouté le podcast pour me dire, ou alors même quand je suis passé à la radio, des gens me contactent pour me dire j'ai rencontré les tueurs, je les ai connus, etc. Mais c'est vrai que moi, ma première idée, c'était vraiment de partir avec mon vélo. La première fois que j'ai branché mon micro, je suis parti sur le premier lieu de crime pour voir si effectivement on se souvenait du crime, des victimes, etc. Et finalement, j'ai eu à chaque fois la chance de rencontrer des gens qui se souviennent un peu des victimes. Et je me suis dit que, oui, on en parle très peu, c'est vrai, de ces victimes, surtout quand il s'agit d'un tueur en série.
Ouais.
C'est vraiment la personnalité du tueur qui prime, et les victimes, ce sont des numéros, en fait. Et je me dis, mais ces femmes devaient avoir une histoire, pourquoi elles se sont trouvées sur leur chemin, sur le chemin des tueurs, et quelles étaient leurs histoires, quelles étaient ces femmes, quoi, âgées, souvent assez pauvres, et donc invisibles.
Mmh. Une pensée pour les victimes, une pensée quand même pour un des tueurs, Thierry Paulin. Quels sont les parents assez cruels s'appelant Paulin pour appeler leur fils Thierry? Thierry Paulin. C'est moche.
Oui, c'est vrai que c'est pas très sympa.
Ça peut donner des envies de meurtre.
Je vous propose une anti-enquête sur ce sujet.
Une anti-enquête, Thierry Paulin, oui. Oui, d'accord, on va essayer.
Et quand je parle de s'intéresser aux victimes, Julien, c'est pas avec légèreté, puisque vous avez parfois accès à des pièces du dossier qu'on imagine assez traumatisantes. Des photos, par exemple, je vous demanderai pas si vous dormez bien la nuit, mais comment est-ce que vous faites en travaillant au long cours sur ce genre de dossier pour le tenir à distance?
Alors c'est
moi,
à la
avec.
Fois
il dort avec.
À la fois je fais beaucoup de cauchemars. Parfois je suis un peu dégoûté par cette affaire criminelle qui est vraiment sordide, qui est vraiment horrible. Mais en même temps, c'est comme je rencontre beaucoup de gens, je fais beaucoup de portraits, je fais beaucoup de découvertes. C'est vraiment beaucoup beaucoup de rencontres, beaucoup de paroles, de et en fait ça me ressource beaucoup. Donc ça vient un peu contrebalancer le côté horrible du crime, c'est-à-dire que quand je vais enquêter sur les lieux de crime, je rencontre des voisins qui vivent là aujourd'hui. Je prends le café avec eux ou le thé et on discute. Ils me racontent leur vie et tout de suite, c'est un peu comme si je reverdissais un sol qui a été un peu abîmé. Vous voyez, quelque part, je refleuris un peu.
Parce que je pense
que vous le rebaignez.
Oui.
Je pense au début de la saison 4 où vous allez à la rencontre d'un policier qui justement lui a encore les photos, les éléments de l'enquête et vous demandez à avoir des photos qu'il vous montre et on sent vraiment pour le coup que vous êtes extrêmement choqué parce que vous voyez. Faut quand même avoir la démarche de demander à aller voir ces photos-là.
Oui. Ouais. Alors après, j'étais pas obligé de les regarder ces photos.
Non, bien sûr.
Mais comme je travaille sur l'enquête depuis deux ans déjà, je me disais il faut quand même que tu vois quoi. Et le fait de les voir, oui, ça a un peu changé ma perception de l'affaire parce que je me suis vraiment rendu compte que c'était des crimes encore plus sordides que ce que j'imaginais.
Julien Cernobori, quel est le regard des enquêteurs qui ont enquêté justement sur cette enquête? Car vous parlez d'anti-enquête, mais que vous enquêtez quand même. Pardon pour l'utilisation du mot enquête.
C'était pas redondant, je trouve.
Mais en même temps, j'enquête, c'est mon surnom. Je vous en prie. La réaction des enquêteurs, donc?
Ils me prennent un peu pour un petit rigolo. Donc j'en ai rencontré un seul, le commissaire en charge de l'affaire. Il dit que j'arrive trop tard. Effectivement, j'arrive 35 ans après les faits, qu'il n'y a plus rien à découvrir. Mais bon, voilà, moi, ça m'amuse aussi de voir sa réaction. C'est-à-dire que je pense qu'il y a toujours des choses à découvrir, en fait, sur cette affaire.
L'affaire est résolue, mais ce n'est pas la résolution qui vous intéresse. C'est justement tout le processus.
Voilà, c'est le processus, c'est ce qu'il en reste aujourd'hui, les traces. Et peut-être que je découvrirai des choses aussi que les enquêteurs n'ont pas trouvées à l'époque. Parce que moi, ça va être le travail probablement d'une vie, quoi. Je vais encore bosser dessus pendant des années, quoi.
Mais je crois que c'est Michel Arnold, si je ne m'abuse, qui était l'avocate de Jean-Thierry Mathurin, qui vous a dit « C'est toujours utile de ne pas refermer les dossiers. Ces crimes atroces nous apprennent beaucoup de ce que nous sommes. Bah, » De même que pour notre passion collective, pour ce qu'on nomme abusivement les faits divers, est-ce que vous avez réussi à élaborer une théorie sur notre appétence pour le genre?
Alors ça, c'est une chose aussi sur laquelle j'enquête. J'ai pas vraiment de réponse encore aujourd'hui. Mais je pose un peu la question à tous mes interlocuteurs. Pourquoi vous êtes fascinés par les faits divers? Je crois qu'il y a quelque chose qui nous rassure dans notre quotidien. Peut-être que ça fait du bien de se faire peur aussi. Voilà, je pourrais pas vous en dire plus, mais je cherche aussi. Je cherche.
On verra bien où cette histoire m'amène, disiez-vous au début du podcast. Vous en êtes donc au numéro 80, quatrième saison. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui que Cerno a été cerné?
Alors en fait, j'ai un point de départ qui est ce tueur en série dans mon immeuble. J'ai pas de point d'arrivée. Ouais. Habituellement, c'est comme ça qu'on fait quand on fait un documentaire, on tourne tout, après on monte. Moi, c'est un peu une fuite en avant. Et du coup, bah, plus je travaille sur l'enquête, plus j'ouvre des portes, plus je déroule des fils, et plus je me dis que plus le mystère s'épaissit aussi, et plus je me dis que je vais y bosser. Enfin, je vais travailler dessus encore pendant de longues années. Et non, je suis pas encore vraiment cerné, quoi.
Julien, avant de créer ce podcast, vous intéressiez-vous au
serial killer?
Au quoi?
Serial killer.
Ah, pardon. Serial killer. Alors?
Oui, oui, ça m'a toujours un peu fasciné. Je suis pas une encyclopédie des faits divers, mais ça m'a toujours un peu fasciné, ouais. Les serial killers.
Et ça continue.
Oui.
Cerno, l'anti-enquête, c'est disponible sur toutes les plateformes. C'est un nouvel épisode qui est à retrouver tous les dimanches. Julien Cernobori, le trait d'union entre la pop culture et les podcasts, eh bien, c'est Charline Roux et son célébrissime désormais Popcast Jingle.
Le podcast.
Oui, alors malheureusement, le jingle signé de l'équipe de 2 heures de perdu n'est pas tout à fait à la hauteur des attentes de la chronique qui suit.
Il
la
est
preuve.
Exactement à la hauteur des attentes. On commence par la chronique d'une naissance et d'un esprit, celle de Radio Nova et de sa philosophie, et avec elle, je cite, celle de ses sœurs et de ses rivales sur la bande FM. Un podcast en 5 épisodes basé sur un article oublié de Jean-François Bizot, fondateur de la radio et du magazine Actuel, et Vraie Plume, un article retrouvé par l'auteur et chroniqueur Jean Rouzeau, qui l'a confié à Richard Guettet avec pour mission, je cite, d'en faire quelque chose. Mission accomplie, voici le roman noir des radios libres, épisode 1, le flic de nuit adore le reggae.
Allez savoir de quand datent les radios libres. Depuis 1968, le monopole de l'ORTF épuisait les jeunes générations. En Angleterre, dès la fin des années 60, les radios pirates, ainsi nommées parce qu'elles émettaient sur de vieux cargos à la frontière des eaux territoriales, comme Radio Caroline, avaient mis à mal les monopoles d'État avec la musique dont on avait envie.
Right here at Radio Caroline, 199. We couldn't exactly go dancing in the street. It would be a little tricky for us out here, to be honest with you.
En France, on n'entendait rien et on était furieux.
Si vous voulez savoir ce qui intervient après le rien, écoutez donc ce podcast qui revient aux origines pour fêter les 40 ans de Nova et c'est dispo sur toutes les plateformes.
Et on continue, je cite, avec un podcast humoristique de société.
Et c'est encore le générique qui synthétise le mieux le projet.
Hyper France, le podcast qui permet de mieux vivre. Hyper France,
donc un podcast pim pam poum, compagnie dont les deux mamelles sont absurdes et illogismes, un programme qui, après un édito pas piqué des hannetons, dirais-je, pour rester dans le ton, et ne sera pas sans vous rappeler quelques prises de parole sur plateau télé, un podcast qui donne la parole à cette France qu'on n'écoute plus, mais qui parle quand même, titre de l'épisode « Ma mère en prison », mère comme l'élu.
Oui, mais alors, qu'est-ce qu'a volé exactement votre mère?
Écoutez... C'est une vaste histoire d'inscription en crèche avec des frais de dossier exorbitants censés renflouer les caisses publiques et qui vont finalement dans les poches de la mère.
Étonnant que vous vous plaigniez quand même, si je peux me permettre.
Pourquoi ?
Bah, tout de même, faites pas l'innocent. On est éditorialiste, mais on a aussi une famille. On sait comment ça se passe.
Ah ben justement, dites-moi comment ça se passe. Dites-moi comment je pourrais dénoncer la mère.
attendez. Pourquoi voulez-vous dénoncer votre mère ? Je comprends pas vraiment le fond de l'histoire.
La mère, parce qu'elle pique dans les caisses, je viens de vous le dire.
Non mais c'est parce qu'elle ne vous le partage pas, c'est ça ? C'est ça qui vous pose problème ?
Un podcast à totalement éviter par la team premier degré. Les autres vont se régaler.
Et quelques analyses musicales pour terminer, Charline.
Dispensé par Écoute ça, le podcast bien nommé et précédemment primé au Paris Podcast Festival il y a 2 ans. Dans chaque épisode, dames, musiciens et amateurs de musique en tout genre parcourent un album en détail, composition, production, paroles. Et dans le premier épisode de la 4e saison, ils s'attaquent à Mutter de Rammstein qui s'ouvre par le titre Mein Herz brennt.
Ce titre est celui qui ouvre l'album Mutter, et en 2001, ce démarrage a été une immense surprise pour quiconque écoutait déjà le groupe auparavant. Les arrangements de cordes sont superbes et intenses, et on sent en quelques secondes qu'on va en prendre plein les oreilles avec un groupe qui expose son ambition grâce à cet orchestre qui va trouver sa place sur les meilleurs titres de l'album. Il y a clairement un avant et un après Mutter. Mutter est le 3e album du groupe, et 4 ans l'éloigne depuis le précédent, Sehnsucht, qui suivait de très près le tout premier qui s'appelait Herzeleid. Ces 2 premiers albums avaient déjà pas mal fait parler d'eux, et le groupe avait acquis en 5 ans une jolie petite réputation. Enfin, jolie réputation, c'est peut-être pas la meilleure expression. Disons que musicalement, le groupe avait commencé à se faire remarquer grâce à quelques titres, dont un en particulier, devenu un classique du metal indus, le morceau Du Hast.
Der Rest der Geschichte, enfin la suite de l'histoire, c'est à retrouver sur écoutesapodcast.fr.
Attendez, refaites-le moi ça.
Le mot en allemand ?
Oui.
Der Rest der Geschichte.
Voilà, tout ça parce qu'elle a fait allemand première langue.
Qu'elle est incapable de faire une phrase aujourd'hui comme Google Trad pourra vous le prouver.
Bon. Merci Charline. Passons de Rammstein à M avec Grandes Oreilles. Oui, ça c'est le titre de son dernier morceau.
Et en allemand.
Oui, Das Wickenspferder. Avant de replonger nos petites oreilles, cette fois dans le podcast de Julien Cernobori, notre invité.
Avec mes grandes oreilles, moi j'entends les abeilles et tous les appareils. La vie fait des merveilles, de Maubeuge à Marseille. Tous y sont les merveilles, et de la tour Eiffel. J'entends même le soleil, avec mes grandes oreilles. Sommeil, j'ai bien lu tout Corneille. Je dors pas, mais j'essaye. Pas besoin de réveil avec mes grandes oreilles et mes petites orteils. Je peux pépégayer. Auriez-vous un conseil avec mes grandes oreilles?
Inter. Antoine Decaune. Pop, pop, pop.
Allô ?
Bonjour, c'est Julien Cernobori.
Oui ?
Après Super Héros, retrouvez Cerno, ma nouvelle série de podcasts.
Ah merde !
Je vous entraîne dans une anti-enquête sensible et passionnante sur les pas d'un tueur en série et de ses victimes.
Il y a eu, à une époque, toute une série de meurtres.
Entre eux, le docteur Petiot et Landru.
Rendez-vous chaque dimanche sur toutes les bonnes applis de podcasts.
Donnez-vous le temps.
Ça, c'était la bande-annonce de Cerno, l'anti-enquête, le podcast de Julien Cernobori, notre invité du jour, disponible sur toutes les plateformes. Je parle du podcast, hein, je ne parle pas de vous, évidemment, Julien. Julien, ce podcast est donc à la croisée des chemins entre recherche appartement ou maison à vendre de Stéphane Plaza et des affaires sensibles de Fabrice Drouel. Un exemple qui colle parfaitement à l'extrait qui suit, dans lequel vous expliquez au nouvel occupant des lieux, un ostéopathe, l'histoire macabre de cet appartement.
On m'a dit qu'il y avait un tueur en série qui avait vécu ici, dans cet appartement. Jean-Thierry Mathurin, ça te dit quelque chose ?
Non.
Thierry Paulin ?
Non.
En fait, bon, beaucoup de gens ont oublié, mais il y a un des plus grands tueurs en série français, en fait, s'appelait Thierry Paulin. Et il a tué une vingtaine, voire une trentaine de vieilles dames dans le quartier, hein, dans l'Est parisien.
D'accord.
Et son complice et amant s'appelait Jean-Thierry Mathurin. Et ils ont tué les 9 ou 10 premières vieilles dames ensemble. Et c'est Jean-Thierry Mazurin qui aurait habité ici.
Quand Stéphane Plaza rencontre Fabrice Drouet, disais-je, c'est un bon pitch, non?
Oui, c'est ça, c'est absolument, c'est le mélange.
Comment il a réagi, l'ostéo, après ça?
Il s'en fiche un peu, en fait. Ouais. Il m'a dit qu'il n'allait pas faire de cauchemar et il n'en a plus reparlé, par contre. Il était un peu au courant qu'il y avait eu, il pensait qu'il y avait eu un enlèvement, en fait, dans son appartement, ou une prise d'otage, un truc comme ça. Il avait un peu oublié l'affaire. Non, il s'en fiche, en fait. Moi, je pourrais, enfin, je sais pas.
Si. Non, moi j'ai voté, hein. Moi sinon je déménage.
Mais non, mais il s'est rien passé de dramatique dans l'appartement.
Non. Puis en plus, il a vécu dans l'appartement après les meurtres, quoi. Enfin, ouais. 2 ans après, peut-être. D'après ce que j'ai compris maintenant.
Vous le disiez, l'anti-enquête, c'est un récit qui prend son temps. Pas facile, j'imagine, de retrouver les témoins, qu'ils soient directs ou indirects. Est-ce que vous êtes pourtant imposé une règle quant au rythme du programme?
Alors au départ, j'étais parti sur un épisode par semaine. Parce que je trouvais qu'il fallait que les gens s'accrochent un peu à l'histoire, et d'un point de vue narratif, il fallait vraiment que je tienne le rythme. Et puis j'avais beaucoup de choses à raconter. Après, je me suis pas mal épuisé, parce que je travaille tout seul sur ce podcast. Et du coup, je suis passé à un épisode tous les 15 jours. Voilà. Mmh. C'était quoi votre question?
Non, mais ça, sur le rythme de mise en ligne et sur le rythme de narration, en fait, au sein même d'un épisode.
Oui, alors du coup, dans un épisode, après, c'est vrai qu'il faut, il faut gérer le rythme, en fait. Il faut pas que les gens décrochent. Et d'ailleurs, à la fin de chaque épisode, je fais en général un cliffhanger assez grossier. je laisse les gens au bord du ravin pour qu'ils aient envie d'écouter l'épisode suivant. Et ça marche. Les gens ne décrochent pas trop, d'après les statistiques.
Julien Cernobori, dans l'anti-enquête, vous dites préférer assumer vos questions foireuses. Vous laissez les hésitations, vous laissez la vie s'installer.
Je laisse un peu ce qui est un peu hésitant, un peu les ajustements. Moi-même, quand je me... C'est-à-dire que c'est des gens que je rencontre sans faire de casting. J'arrive toujours micro ouvert, à l'improviste, sur les lieux de crime. Donc c'est des gens que je sais pas qui je vais rencontrer. Eux ne savent pas qu'on va les interviewer. Ils ont jamais même répondu à une interview. Et je les surprends vraiment. Donc c'est vrai que c'est pas tout de suite très performant, une interview, quoi. Il faut s'ajuster. Il y a des hésitations. Ouais. Moi, je pose souvent les mauvaises questions. Et ils me donnent les mauvaises réponses, peut-être. Et du coup, voilà. Mais ça fait partie du truc.
Vous êtes trompé d'adresse. Enfin, ça peut durer très longtemps, votre histoire.
Mais je comprends ce que veut dire Antoine, parce que c'est pas si souvent qu'un podcast est mené par quelqu'un qui, enfin, laisse être sidéré, en fait. Par moments, vos réactions semblent être relativement normales. Généralement, c'est le genre de choses qui est édité dans un podcast. On veut que les questions soient claires, directes, précises. Mais vous, ça vous permet aussi de vous mettre dans la peau de l'auditeur. Oui. Et de devancer éventuellement les questions qu'il peut se poser au moment, parce que vous entendez les témoignages en même temps que nous, quasiment.
Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est aussi un podcast sur un podcast, enfin, sur un journaliste en train d'enquêter, quoi. Et du coup, il y a un peu tout ce off que je garde.
Oui.
Et qu'est-ce qui va déterminer la fin du programme? Vous avez dit tout à l'heure jusqu'à ce que mort s'en suive, mais j'imagine que c'est une formule.
Non, je pense que vraiment, honnêtement, je pense qu'il y a de quoi travailler encore des années. Ouais. Et je pense que c'est pas possible que je mette un point final à cette affaire. Il faut que j'aille vraiment jusqu'au bout. Comme le conseille d'ailleurs l'avocate de Jean-Thierry Mathurin. Elle me dit, il faut aller au bout. Et je l'ai pris vraiment, je la prends au mot, quoi. Et, ouais, je pense que j'ai encore de quoi tenir des dizaines d'années.
Oula. Ouais. L'anti-enquête Julien Cernobori, ce podcast a été lancé en 2019 et il faisait partie des 100 meilleurs podcasts selon Télérama dès l'année suivante. Quelle est la recette de son succès selon vous? Qu'est-ce qui plaît tellement aux gens là-dedans?
Alors déjà, il y a le côté enquête, le côté fait divers. On est tous... Les êtres humains, je pense, sont assez passionnés par ça, par l'enquête, par le fait de chercher, par le crime aussi. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, on est comme ça. Et ensuite, c'est aussi parce qu'on entend des portraits de gens qu'on n'entend pas souvent, des gens que je rencontre comme ça, donc au hasard, et qui sont. Si on avait fait un casting, on les aurait pas forcément retenus, quoi. C'est des gens qu'on n'entend pas souvent, qui racontent un peu leur vie. Ce sont des gens assez simples parfois.
Ouais.
Et je pense que c'est ça qui plaît aussi aux gens. En fait, la rencontre.
Moi, j'ai une théorie selon laquelle on est fasciné par le crime parce que ça nous évite d'en faire nous-mêmes.
Peut-être que c'est une catharsis, ouais.
Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Ça en dit plus long sur vous. Enfin,
Vous voulez qu'on continue sur ce
non,
terrain?
Non, non, c'est bon, ça va aller.
Ok.
Rangez ce stylo.
Je vous cite Julien. J'ai toujours voulu travailler sur un fait divers, mais je ne savais pas comment, alors j'ai décidé d'aller sur les lieux des crimes avec ma méthode, micro ouvert, comme vous le disiez à l'instant, et je parle aux gens que je croise. Je suis sûr de ramener quelque chose, de faire des rencontres auxquelles je ne m'attends pas. C'est ça, en fait, ce que vous cherchez. C'est l'inattendu. Et dans ce registre-là, quelle a été la rencontre la plus inattendue jusqu'à présent?
Elles sont toutes très inattendues, mais la première, peut-être. Vraiment, le jour où je me suis dit, tiens, ça faisait peut-être un an que j'avais ce projet. Mm-hmm. Et un jour, je me suis dit, bon, allez, je me lance, quoi. Je prends mon vélo et je vais sur le premier lieu de crime. Et on verra bien ce qui se passe, quoi. Et j'étais pas sûr de pouvoir rentrer dans l'immeuble parce qu'il faut un code et tout. Et je me suis retrouvé dans une espèce d'aventure où j'ai rencontré le coiffeur libanais en bas de l'immeuble. Puis la patronne de la petite boutique qui m'a fait entrer. Puis j'ai rencontré un monsieur turc qui se souvenait de la victime, qui m'a offert le thé. Et en fait, pour moi, c'est une émotion à chaque fois qui est énorme. Mmh. C'est une émotion immense. C'est un plaisir de rencontrer des gens qu'on n'a pas prévu de rencontrer, de passer du temps avec eux, le fait qu'ils vous parlent, qu'ils vous racontent leur vie. C'est absolument magnifique à vivre, quoi.
Mais en fait, l'anti-enquête devient presque un prétexte.
Oui, c'est sûr.
L'affaire criminelle,
l'affaire
elle-même.
Alors, je m'y intéresse. Mmh. C'est vrai que c'est une affaire qui est passionnante. Mais c'est aussi parfois un prétexte. Mmh. C'est-à-dire que je rencontre des gens que je rencontrerai pas dans ma vie de tous les jours, quoi. Mmh. C'est des gens qui me ressemblent pas forcément. Et pourtant, il y a quand même toujours une connivence. Il y a une vraie rencontre, quoi.
Et puisqu'on parle de drôles d'expériences, votre précédent podcast, Super-héros, a actuellement une deuxième vie.
Vous allez écouter l'histoire d'Hélène. C'est une femme très enjouée, vous allez l'entendre. C'est quelqu'un qui vit deux fois plus que les autres. Et pourtant, Hélène, pour des raisons que vous allez bientôt apprendre, ne peut jamais profiter de ses soirées. Elle n'a pas le droit de boire un verre d'eau. Elle ne peut pas manger ce qui lui fait plaisir. Et donc, avec Hélène, on se voyait régulièrement. Le samedi surtout, on prenait un café en fin de matinée et on parlait beaucoup. Et puis un jour, Hélène a disparu. Ou disons qu'elle ne m'a plus donné de nouvelles.
Tout va bien, mademoiselle, au théâtre du Rond-Point, une série audio devenue une pièce de théâtre.
Oui, c'est un podcast que j'ai créé en 2017. Donc Hélène, c'était la première saison. C'est une grande amie à moi, en fait. Je trouvais qu'elle avait une vie très héroïque même. Et je me suis dit, j'ai envie de t'enregistrer et que tu me racontes ta vie vraiment de A à Z. Et je l'ai un peu découverte aussi au micro, sa vie, parce que je savais pas tout d'elle. Et ça a fait un podcast qui était mon premier podcast. Mmh. Quand j'ai quitté la radio, c'était vraiment mon premier podcast qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès, qui a fait des centaines de milliers d'écoutes. Et récemment, on a appris qu'il allait être adapté au théâtre du Rond-Point. Et c'est une grande, grande surprise. Et c'était très émouvant, en fait. J'ai assisté à une répétition la semaine dernière. C'était très, très émouvant, très beau. Très, très impressionnant aussi comme interprétation.
Et c'est donc au théâtre du Rond-Point, depuis le 24 novembre et jusqu'au 19 décembre. Et vous avez adapté ce texte avec Hélène Ducharme.
Alors,
un petit mot sur Hélène que nous connaissons bien ici.
Oui, oui, c'est une grande attachée de presse, Hélène Ducharme. En fait, nous, on a fait une interview qui a duré peut-être 13 heures en plusieurs fois. J'ai fait un montage après. Hein, j'ai passé 3 mois à monter cette interview. J'en ai tiré un podcast qui fait 1h45. Et après, ça a été adapté par Marie Raymond, qui est comédienne et metteur en scène.
Et on la félicite. On va finir sur une note un petit peu corporate, hein, puisque vous avez passé 13 ans de votre vie dans notre maison, ici même. La journaliste Kathleen Evin, qui a longtemps accueilli vos reportages dans son émission médicale Tumeur Vagabond, dit que vous avez le goût du son avec un maniement parfait des silences habités, des hésitations. En fait, c'était une bonne école, cette école de radio ici.
Ah ben j'ai tout appris là, j'ai tout appris ici. Mmh. Ouais, j'ai eu des maîtres incroyables. Mmh. Donc comme je disais tout à l'heure, je suis passé par tous les métiers et j'ai vraiment tout appris ici, oui. Le reportage, je dois beaucoup à cette maison.
Allez, venez tous travailler à Radio France. La maison vous ouvre ses portes. Cerno, l'anti-enquête, c'est disponible sur toutes les plateformes. Un nouvel épisode est à retrouver un dimanche sur deux. Pop break dans ce numéro de Pop Podcast, c'est l'heure des pop news et spéciales.
Un nouveau podcast avec des hôtes assez particuliers.
November. The coldest month of the year. Week 4. The coldest week of the month. Thursday. The coldest day of the week. That day has a name. And that name...
Thanksgiving Day.
Oh, brother.
Avez-vous reconnu cet accent postillonnant moyennement Covid-friendly? Le podcast s'appelle Bugs and Daffy's Thanksgiving Road Trip. L'intrigue est la suivante. Lorsque Bugs Bunny et Daffy sont invités au parc Warner Bros. Pour un grand festin de Thanksgiving, Daffy est déterminé à faire du canard l'oiseau officiel de Thanksgiving. Quel grand esprit! Il élabore un plan pour jouer dans un film de vacances à gros budget. Pas malin, malin. Le volatile, c'est évidemment très marrant et c'est dispo sur toutes les plateformes. Avis à tous les fans obsessionnels de la famille Roy et de leurs épiques querelles familiales, voici le podcast qu'il vous faut.
Hi everyone, and welcome to the official Succession podcast from HBO and Pineapple Street Studios.
There's blood in the water. Sharks are coming.
Yeah, my husband is a player in this, and one world, there's I'm in a position to come out here as CEO.
You destroy Kendall, it falls apart.
La journaliste Kara Swisher décortique la série Succession, épisode par épisode, avec des invités allant d'anciens dircoms de la Maison Blanche à d'illustres hommes d'affaires, de quoi satisfaire votre soif de savoir et de pouvoir.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi, mais...
Bugs Bunny ou Daffy Duck? C'est... On a... Je crois que seuls les animaux vous entendent. Daffy, vous voulez.
Mais oui, voilà, bien sûr. Enfin, Julien Cernobori, dans la suite de Pop au Podcast, nous parlerons de podcast et éventuellement aussi de podcast. Ce sera juste après le grand retour de Kavinsky avec son morceau Renegade. Kavinsky avec Cautious Clay, c'était le morceau Renegade. Vous écoutez Pop Podcast, la seule émission de radio sur les podcasts que vous pouvez écouter à la radio et en podcast. Oh, mais quoi? Mais
Mais oui, bien sûr. Bonjour, c'est Cosmo Flash.
Bonjour Antoine.
Dans le studio
bonjour
qui fait voler tous mes papiers.
Bonjour.
Bonjour Cosmo, asseyez-vous. Vous avez dit bonjour à
bonjour.
Laurent peut-être.
Bonjour.
Non, Julien, oui, dites bonjour à Julien aussi. Installez-vous, vous êtes prêt?
Okay. Oui, je suis prêt.
Bonjour.
Bien, cette semaine, je suis retourné au Canada, figurez-vous, et je vous ai déniché une super fiction qui s'appelle Limited Capacity.
Mm-hmm. Qui s'appelle
Limited Capacity.
Et qu'on pourrait traduire peut-être par...
On pourrait traduire par Capacité Limitée. Oh. Alors, c'est une petite collection de 6 histoires courtes produites par CBC, donc la branche anglophone de mm-hmm. Radio-Canada. Et chacune de ces petites histoires raconte les façons étranges et parfois un peu tordues dont nous interagissons avec Internet et avec les autres sur Internet, comme ici dans le premier épisode.
I found it all very romantic. The city, the building, the job. Working for Greg Mitchell was not.
How are things with you, Edie?
Yeah, everything is good.
Yeah.
You know, got into running.
Oh, nice.
There was a lot not to like about my boss, Greg.
You know, I'm all about health and fitness. I used to be a personal trainer. So, you know, my routine is, yeah, I get up at 4 o'clock in the morning. But kudos on the... running.
Donc là, c'est la situation d'exposition. On fait la connaissance d'Eddie, la protagoniste principale du podcast, et de son manager, Greg, un personnage plutôt détestable. Mm-hmm. Eddie nous explique que toute son entreprise est en télétravail forcé, les équipes vivent sur Slack et enchaînent les appels en visio sur Zoom. Jusque-là, rien d'anormal pour quiconque a vécu ces deux dernières années.
Alors, sachant que cette chronique m'a été proposée sur Slack et que nous l'avons répétée tous les deux sur Zoom avant de la réécrire sur un Google Doc, vous n'allez quand même pas parler de télétravail forcé à votre sujet, ni de conditions de travail déplorable, hein, j'espère.
Non, je vous rassure, okay. Antoine, allez, ça me va très bien. Mais écoutez la suite, ça va vous plaire. Juste après cette exposition, on fait la connaissance de tous les collègues d'Eddie à travers des extraits d'appels Zoom, tous enregistrés de son point de vue. Mais il y a un petit problème, la boîte est en mauvaise santé et Greg, le manager, donc prévient de manière assez maladroite ses salariés qu'ils risquent de perdre leur job. S'ensuit donc un appel Zoom dans lequel les protagonistes se lâchent sur leur manager, tout le monde le déteste, tout le monde souhaite plus ou moins sa mort.
After that call, our frustrations with Greg got funneled through a new game.
Let's say you want to kill Greg. How do you do it?
You sneak into his house and you saw through his banister just halfway. The railing snaps and he falls to the bottom of the stairs, the victim of a sleepwalking accident.
I got one. Have you guys seen A Clockwork Orange?
Yeah.
We should like have his eyes like spread wide open and then have a voice recording of him just telling us the word restructuring over and over and over again.
That's great. Oh,
yeah. Qu'est-ce qu'ils disent?
Donc là, le groupe de collègues enchaîne les appels Zoom semaine après semaine et le jeu favori du petit groupe devient d'imaginer encore plus de nouvelles façons de tuer leur boss.
Façon orange mécanique,
notamment. Jusqu'au jour où l'un des salariés se voit annoncer son licenciement, et là, la blague prend un tournant un peu lugubre.
But I did brainstorm the perfect way to kill Greg, and I've been kind of saving it for a special occasion.
Yes, do it.
He loves to work out. Early mornings, he's down in his garage doing deadlifts, grunting, high-fiving himself. Anyways, I find a way to get in and find a good spot to hide. And when he's on his last set and his arms are real shaky, I'd sneak up behind and throw my full weight on the bar.
Le personnage en question, plutôt énervé, décrit précisément la manière dont il souhaiterait tuer Greg. À la fin d'une séance de muscu, sa barre de développé couché lui tombe dessus et l'étouffe. Donc là, ça permet au groupe de se défouler un peu après cette terrible nouvelle du départ de leur collègue. Mais il y a un hic. 3 jours plus tard, Greg est retrouvé mort dans son garage. Et je vous le donne en 1000, il s'est étouffé sous le poids de sa barre de développé couché.
Vous ne souhaitez pas du tout ma mort, Cosmo?
Non, c'est...
Rassurez-moi.
Non.
Alors pourquoi m'avoir offert un banc de musculation?
C'est une pure coïncidence, Antoine. Je veux simplement que vous gardiez la forme. Okay. C'est purement... voilà. Et puis de toute façon, c'était pas l'arme du crime, puisque c'est à ce moment-là que nos personnages se rendent compte que c'est bien leur réunion Zoom qui peut tuer n'importe qui, pourvu que tous les invités soient présents, qu'ils soient tous d'accord, et qu'ils décrivent de manière précise la mort de la personne en question. Je vous en dirai pas plus. Pour avoir le fin mot de l'histoire, il faudra écouter le reste de l'épisode. Mais je crois que vous devinez tous et toutes les inspirations de cette série. Mmh. En fait, le concept de ce podcast, c'est de proposer une sorte de mélange entre Black Mirror, la quatrième dimension et même Death Note pour le premier épisode, mais avec des histoires adaptées pour nos oreilles. Dans le premier épisode, donc, on s'imagine ce qui se passerait si on pouvait tuer des gens sur Zoom. Dans le deuxième, on écoute une sorte de parodie de podcast autour d'une personne dont le métier est de remplacer une influenceuse sur les réseaux sociaux, mais elle fait tout déraper. Bref, ça marche super bien, on a tous les ingrédients pour que ça fonctionne, de l'humour noir, des rebondissements surprenants, et surtout, tout est adapté à l'audio. C'est pas seulement une bête fiction avec des textes, des acteurs, des bruitages. Chaque épisode dit quelque chose de nous, de nos vies numériques, mais surtout, il y a une réflexion autour du média podcast, et ça, c'est très rafraîchissant.
Merci, Cosmoflash.
À quelle heure sur Zoom ?
Vite, 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 parce que... À quelle heure sur Zoom ? Non, ça y est, il est déjà reparti. Il est déjà reparti. Julien Cernobori sera vous dans quelques instants de nous conseiller un podcast. Je vous laisse réfléchir le temps d'écouter un morceau signé d'un autre animateur de podcast, Elton John. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Rocketman sur France Inter, et c'est évidemment Sir Elton John. C'est un morceau qui vous plaît, Julien ?
Ah oui, beaucoup, ça fait du bien d'écouter ça, je trouve.
Ah, n'en parlez pas. N'en parlez pas à Charline non plus.
Qui ne le verra jamais en concert.
Qui ne le verra jamais.
Bonne histoire maudite.
En concert. C'est une autre histoire. Vous savez, ça pourrait faire un bon podcast. Tiens,
la personne qui achète des places Elton pour John. Elton John, ouais, et le concert est reporté. Ouais. Quand enfin il va venir, il se fait mal à la hanche et il ne vient pas.
Oui, enfin en même temps, on vient.
Bah, c'est bon, je viens de le faire.
Ouais, très bien. Vous avez aimé cette balado-diffusion musicale, vous qui aviez l'habitude de vous balader avec votre chronique baladeur, Julien ? C'était agréable ?
Oui, très agréable. Mmh. Ouais, ouais.
Vous reviendrez si on vous réinvite ?
Oui, volontiers, avec grand plaisir.
Vous reviendrez si on vous force ?
Vous ne le savez peut-être pas, mais ici nous avons une chronique qui s'appelle le podcast. Le podcast que l'on conseille à un pote, en référence évidemment au coup de fil à un ami de Jean-Pierre Foucault, Jingle. Et vous, Julien, le podcast que vous conseillez à un ami, eh bien, c'est La Séparation. Bande-annonce.
J'ai commencé à enregistrer Manu et Karim quand ils se sont mariés, il y a presque 25 ans.
Bonsoir.
Bon, vous êtes prêts, alors. Et là, je vis.
C'est la fête.
Dans notre cercle d'amis, c'était un couple mythique. Ils partageaient la même passion pour le bricolage, les métaphores culinaires et une bonne dose d'anticonformisme. Surtout, ils arrivaient à nous faire croire à l'amour pour la vie.
Et les autres filles, t'as mis complètement de côté, quoi.
Je sais pas, tu bouffes un très bon gâteau, y en a un très bon à côté, tu finis le tien, quoi, non ?
C'était en 1997, Manu avait une belle robe rose et ils se sont dit oui pour la vie.
Mmh. Sauf qu'ensuite, ça tourne mal.
Oui, comme toutes les histoires d'amour, en fait.
Le titre était un indice.
Oui, c'est ça.
Alors ouais. Pourquoi avez-vous choisi ? Pourquoi conseillez-vous ce podcast-là ?
Alors c'est vrai que je le conseille à tout le monde. Alors déjà, c'est une copine à moi qui l'a réalisé, Sophie Simoneau, qui a beaucoup, beaucoup de talent. J'adore son travail. Et c'est, comment dire, on peut penser que c'est un peu glauque, en fait, d'écouter ça, un couple qui se sépare. Elle a enregistré ce couple la première fois pendant leur mariage, et puis après, 10 ans après, tous les 5 ou 10 ans, elle est allée les rencontrer pour les enregistrer, et donc ça montre leur séparation progressive, en fait. On voit un peu quels sont les mécanismes qui font qu'un couple peut se déliter ou pas.
La Séparation, c'est donc le podcast recommandé par Julien Cernobori, qui était notre invité aujourd'hui. Moi, je dis... Détour en série, une bonne petite séparation derrière, et voilà, ça nous fait un week-end, ça, non ? Non ?
Bon week-end, oui.
Bon, merci Julien. Je rappelle que Cerno, l'anti-enquête, est disponible sur toutes les plateformes, et je rappelle aussi que Tout va bien, mademoiselle, le spectacle inspiré de votre podcast Super-héros, est à voir et à écouter sur la scène du Rond-Point jusqu'au 19 décembre. C'est à 21h. Merci Charline.
Merci à vous.
Merci Julien.
Merci, merci beaucoup.
Et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Laurent Baudouin qui était à la technique aujourd'hui, lundi dans Pop 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 événement.
Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalo.
Mais je comment vois, je vais chanter ?
Mais je vois des couleurs, yeux mentalo, qui sont en train de fondre à ma gauche. Mais oui, Eddie Mitchell sera notre invité. Mais avant lundi, rendez-vous partout sur les internets. 3615, pop, pop, pop.
Perdu dans sa mégalo, moi j'étais de trop. Elle marchait comme un chat qui méprise sa peau.